Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Il le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Simon Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. » Jésus répondit « Tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis. Un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. »
Ce texte nous plonge dans l'ambiance du dernier soir que Jésus passe avec ses disciples avant son arrestation. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'on aime, ou des personnes qu'on aime, alors qu'on est sur le point de partir ? En fait, le thème de l'amour et du départ, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans la chanson française. Y a Jacques Brel qui a chanté là-dessus, Pierre Bachelet, Charles Aznavour, déjà... Les chanteurs disent mon âge. Non, je ne suis pas aussi vieux, mais quand même. Jean-Jacques Goldman, un peu plus récent. Mais probablement une des plus connues dans le contexte français, c'est celle de Serge Gainsbourg. « Je suis venu te dire que je m'en vais. » Alors, à la Gainsbourg, je ne vais pas pouvoir le faire. Déjà, je ne suis pas rasé. Je suis rasé, justement. Mais je vais essayer de faire mon mieux. « Ouais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Oui, je t'aimais. Oui, mais... Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sangles longs n'y pourront rien changer, comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures, tu sanglotes, tu gémis à présent qu'a sonné l'heure. Ouais, je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. » Malgré le ton un peu désinvolte, détaché, quand on y réfléchit, c'est des paroles dures. Des paroles dures à entendre. Et quel contraste avec ce qu'on entend chez Jésus dans ce texte, avec ses disciples. La seule raison qui est évoquée ici par Gainsbourg pour son départ, c'est « car tu m'en as trop fait ». Et en fait, quand on y réfléchit, Jésus, il aurait l'occasion de donner cette même explication à un Pierre, par exemple. Il sait qu'avant l'aube, Pierre l'aura renié 3 fois. Dans les heures qui viennent, il va le renier 3 fois. Ce qui va lui dire, tu m'en as trop fait, Pierre. Non, on l'entend plutôt un peu plus loin dire, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Et après l'annonce du reniement, il dit à tous ses disciples, là c'est le début du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place ? Si Jésus parle de son départ, ce n'est pas pour les lâcher. Ce n'est pas pour quitter ceux qui lui en ont trop fait. Il veut au contraire, par son départ, les assurer que là où il sera, ils seront aussi dans la communion avec le Père. Une des difficultés du passage, c'est un peu de comprendre son articulation. Jésus passe de parler de sa gloire à l'amour, au reniement de Pierre. Et une des difficultés pour les exégètes, c'est de comprendre l'articulation, justement. Certains suggèrent qu'en fait, on a un ramassis de différentes pensées, un peu comme les pensées de Blaise Pascal, on ne sait plus l'ordre dans lequel il voulait mettre les choses, et on les a là. Mais il y a de l'ordre, je vous suggère. Il y a bel et bien de l'ordre. On va essayer de le voir en entrant dans ces différentes parties. Et la première, c'est ce que Jésus va faire. La deuxième, ce que ses disciples devront faire, ce que Pierre pensait pouvoir faire. Ce que Jésus va faire. On lit, et si vous voulez suivre dans les Bibles bleues devant vous, vous êtes les bienvenus. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui. Il le glorifiera aussitôt. Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Quelle est cette gloire dont Jésus parle ? Dans nos conversations, il faut reconnaître qu'on n'utilise pas régulièrement le terme gloire. À la limite, pour une célébrité, on parlera de son heure de gloire, de son apogée, en gros le moment où elle a le plus brillé dans sa carrière. Mais peut-être une autre illustration peut nous aider à y voir plus clair. Si vous vous trouvez à l'entrée du château de Versailles, vous pouvez voir ces écritures sur le haut des ailes du château, à toutes les gloires de France. Toutes les gloires de la France. L'initiative est celle de Louis-Philippe en 1837 qui décide de faire de ses ailes du château un musée. Il réunit 6000 tableaux, 1500 sculptures et comme l'expression l'indique, tout cela est dédié à toutes les gloires de la France. Autrement dit, si vous voulez voir la gloire de la France, la grandeur de cette nation jusqu'à cette époque-là, eh bien, allez au musée, rendez-vous au musée. Retrouvez les artistes français qui ont jalonné l'histoire jusque-là. Il y a là toutes les gloires de la France, selon Louis-Philippe. Si on pense à la vie de Jésus, à l'ensemble de sa vie, où est-ce qu'on va pour voir sa gloire? Pour avoir une vue la plus complète possible de sa gloire, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aux noces de Cana, son premier signe miraculeux? Ou est-ce qu'on va à la résurrection? Alors, on est d'accord, il y a bel et bien la gloire qui est révélée dans ces deux moments. Mais selon Jésus, si on veut voir la révélation la plus complète de sa gloire, la plus sensible, la plus vraie, il faudra l'écouter quand il dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. » Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus prononce ces paroles? Le début du verset nous dit « Lorsque Judas fut sorti. » Lorsque Judas fut sorti. Jusqu'ici, Jean relate le détail des événements. Et il a une perspective particulière, Jean, comme on va le voir. Il nous décrit bien l'ambiance lourde de cette soirée où Jésus annonce que l'un des disciples va le trahir. Et forcément, tout le monde se demande mais qui pourrait faire une chose pareille. Pierre fait signe à Jean de demander à Jésus. Et c'est ce que Jean va faire. Et discrètement, il entend la réponse de Jésus. C'est celui qui va tremper... À qui Jésus va donner un morceau de pain. Et Jésus donne ce morceau sous les yeux de Jean. Les autres disciples ne savent pas exactement ce qui se passe. Jésus donne un morceau à Judas et lui dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Et le commentaire de Jean est le suivant. Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Et pour Jean, c'est l'occasion de dire qu'il y a une heure sombre. Sombre, parce qu'il fait nuit, mais sombre aussi sur un plan spirituel. Le mécanisme est enclenché, l'engrenage a commencé. Judas sort, et c'est toute la suite qu'on connaît qui va se dérouler. Et on se demande naturellement, mais qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans? Si vous pensiez à une personne, est-ce que vous auriez l'idée de décrire la gloire de cette personne dans le fait qu'elle a été trahie par un proche? Si vous vouliez décrire la gloire d'une personne, est-ce que vous auriez l'idée de décrire le moment où elle a vécu la plus grande injustice? Le grand paradoxe que Jésus dévoile, c'est que le moment de sa gloire, le plus complet développement, de dévoilement de sa gloire, c'est paradoxalement le moment de sa honte. Sa honte. Parce qu'au-delà de la trahison de Judas, c'est une accusation fausse. Il va être battu, injurié, on va lui cracher au visage, le flageller, l'humilier, lui faire porter sa croix et finalement le crucifier. On va tirer au sort ses vêtements. Le plus grand moment de la gloire de Jésus, elle se trouve paradoxalement dans sa honte, dans son humiliation, son abaissement. Comment est-ce que c'est possible ? Pour Louis-Philippe, si vous voulez voir toutes les gloires de la France, vous allez à Versailles. Pour Jésus, si on veut voir la plus belle représentation de sa gloire, il faut penser à cette heure sombre qui mène à la croix. Qu'est-ce qu'il y a de glorieux là-dedans ? Mais il y a quelque chose de glorieux dans le fait que Jésus va se donner pour ses disciples. Et il se donne pour eux. S'il part, ce n'est pas parce qu'ils lui en ont trop fait. Jésus va se donner pour eux, par amour pour eux, pour se sacrifier à leur place, parce qu'il les aime précisément. Et il n'idéalise pas les disciples, ce n'est pas comme s'il les voyait comme les amis les plus remarquables qu'il aurait pu souhaiter, parfaits. On se souvient que ce soir-là, il a accompli un symbole fort avec le lavement des pieds des disciples. Deux symboles forts, d'une part, jusqu'à quel point il les aime, il s'abaisse pour faire d'eux le centre de son attention, il s'abaisse pour les servir eux. Et d'autre part, il symbolise la purification intérieure dont ils ont besoin par ce lavement des pieds. Ce qu'il y a de glorieux dans ce qui se passe ici, c'est que Jésus est prêt à mourir pour eux, mourir à leur place, précisément des personnes qui ne le méritent pas. Ce qu'il y a de glorieux aussi dans ce qui se passe, c'est que Jésus est prêt à obéir à son Père, à accomplir la volonté de son Père jusqu'au bout. Et la gloire est mutuelle, comme on le voit dans ces versets. Dieu a été glorifié dans le Fils, et le Fils a glorifié Dieu. Et Jésus précise ensuite que le Père glorifiera aussitôt le Fils, il le glorifiera. Une allusion probable à sa résurrection qui viendra juste après la croix. Elle attestera que l'œuvre de Jésus, elle a été reconnue comme juste et pleinement approuvée. Juste dans le sens qu'elle nous justifie. Où est-ce qu'on a tendance à chercher la gloire de Jésus ? Peut-être que votre tendance, c'est de penser à la gloire de Jésus en termes de son intervention dans ma vie. Un travail que j'aspirais à trouver, que j'ai trouvé. Une situation, un appartement que je cherchais, et c'est là que je verrai la gloire de Jésus. Une situation qui se débloque, une opportunité qui se présente. Selon Jésus, lorsque sa gloire est révélée, c'est au moment de sa honte, de son humiliation, c'est le moment de la croix, alors qu'il subit cette mort à notre place. Ce que ses disciples devront faire, c'est la prochaine partie. Et dans cette deuxième partie, il commence avec affection ses paroles. « Mes enfants, je suis avec vous encore un peu. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. » C'est une parole qui a dû faire frémir les disciples. Il va être séparé de nous. On ne va plus le voir, on ne va plus être avec lui. Comme on l'a dit au départ, Jésus va par la suite préciser que c'est pour un temps à Pierre. Et à tous les disciples, il dit qu'ils vont être retrouvés, ils vont se retrouver dans sa présence et celle du Père. Mais qu'est-ce qu'on trouve entre les deux, entre ces deux moments ? C'est ce qui devra caractériser les disciples entre son départ et ses retrouvailles. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Ces disciples ont été témoins de son amour pour eux, et ils devront à leur tour être témoins pour que d'autres puissent le voir, en être saisi. Je ne sais pas si vous avez la même réaction en entendant ce commandement nouveau que Jésus présente. Aimez-vous les uns les autres. On a envie de dire, mais j'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et d'ailleurs, si vous deviez aller dans la rue et demander à quelqu'un, quelles que soient ses convictions religieuses, ses convictions philosophiques, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important pour un être humain de vivre ? Forte chance qu'ils disent l'amour, s'aimer les uns les autres. Et d'ailleurs, même dans la Bible, on trouve déjà ce commandement. Il est déjà dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, 12 siècles plus tôt. Cet amour les uns pour les autres, il y est déjà. En quoi est-ce nouveau alors ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je suggère qu'il y a au moins deux niveaux pour cette nouveauté. La nouveauté, d'une part, elle se voit dans le modèle ou la mesure que Jésus donne à cet amour. Jusque là, personne ne l'a manifesté avec cette mesure-là. Il le dira plus tard au chapitre 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et plutôt, il a lavé les pieds de ses disciples. C'est un amour comme celui-là, radicalement différent de tout l'amour que vous avez pu voir ou dont vous avez entendu parler, certainement. Un amour qui ira jusqu'à la croix. La nouveauté, elle se voit déjà là, dans un modèle plus haut que tout ce qui s'était vu avant. Mais la nouveauté, elle se voit aussi dans un socle qu'il pose. Comme je vous ai aimé. Ce n'est pas simplement un modèle, c'est aussi un socle. Son amour pour eux va être le fondement de leur amour pour d'autres. Mettez-vous dans la peau des disciples qui entendent ça et qui se disent « Ok, il va partir, on va le retrouver, mais jusque-là, il va falloir qu'on s'aime les uns les autres à la mesure de son amour pour nous. » C'est parti. On commence, on démarre, on prend des bonnes résolutions, on prend des bonnes dispositions. Qu'est-ce qui se passe le premier jour quand on réalise qu'on n'est pas à la hauteur de son amour ? Qu'est-ce qui se passe quand on voit que notre égocentrisme prend le dessus, notre orgueil prend le dessus, notre dureté de cœur, elle est toujours là ? Est-ce que je vais considérer que mon espérance, celle de le revoir un jour, elle est remise en question ? C'est pas certain, finalement. Dans une de ses lettres, Jean met bien en évidence le socle qu'il faut pour pouvoir vivre cet amour. Dans 1 Jean 4, versets 10 et 11. Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés. Et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Le commandement, il est bel et bien là. Il y a bel et bien une invitation à s'aimer les uns les autres. Mais il va falloir saisir au départ que nous avons été aimés de lui. Qu'il nous a expié nos fautes, toute notre incapacité à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Toutes les fois où on n'a pas su le faire, pas su le vivre, lui l'a couvert. Et c'est sur ce fondement-là qu'on va pouvoir s'aimer les uns les autres. Par la grâce de Dieu, j'ose croire qu'ici à la rue de Sèvres, on goûte déjà à ce commandement nouveau. Qu'on a déjà certains réflexes qui sont inspirés de Jésus dans le modèle, la mesure, qu'on a envie d'aimer les autres. J'ose croire aussi que son amour, il a eu un impact dans notre vie au point de nous donner envie de grâce. Mais avec la gloire de Jésus en tête, on rêve de mieux. On devrait rêver de mieux, ici à la rue de Sèvres. De beaucoup mieux. Avec un socle et un modèle comme celui-là, je peux apprendre à aimer sans rechercher l'approbation quand je le fais. Sans avoir peur d'être exclu, d'être rejeté. Je réalise qu'il m'a aimé et qu'il ne m'a pas exclu alors qu'il avait toutes les raisons de m'exclure. Avec un socle et un modèle comme celui-là, je peux apprendre à aimer sans faire preuve de favoritisme, sans choisir ce que je vais aimer. Je sais que j'ai été aimé par celui qui, justement, avait toutes les raisons de m'exclure. Avec un socle et un modèle comme celui-là, je peux apprendre à dire la vérité dans l'amour parce que je réalise que dans son amour pour moi, il a été honnête pour me dévoiler les raisons de son œuvre à la croix, le besoin d'expiation, besoin de pardon, pour que je puisse me confier en lui. Avec un socle et un modèle comme celui-là, je peux apprendre l'engagement et l'attachement. Si Jésus met tant d'importance à un amour les uns pour les autres, s'il met tant d'importance à dire à ses disciples que ce qui les attend, c'est une communion avec lui et le Père, comment est-ce qu'on pourrait vivre notre vie de croyant avec une foi purement individualiste, avec une foi purement consommatrice? Comment est-ce qu'on pourrait se contenter de ça? Il nous pousse plus loin par ce socle, par ce modèle. On termine avec ce que Pierre pensait pouvoir faire. Je ne sais pas si ça vous arrive de le faire, mais parfois en lisant les faits divers et des fautes graves qui sont commises par l'une ou l'autre personne, il m'arrive de me demander comment est-ce que cette personne elle va vivre après ça. Je pense à deux faits divers de l'été dernier où je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont vivre après ça? Trois jeunes filles en Vendée qui ont torturé une de leurs camarades pendant une heure en la frappant, en lui lacérant le dos avec des morceaux de verre parce qu'elle regardait, semble-t-il, leur petite amie de trop près. Ou encore ce père en Isère qui, pour différentes raisons, a oublié son enfant de 2 ans et demi dans la voiture et qui revient quelques heures plus tard pour constater qu'il est décédé, mort de déshydratation. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se relever après ça? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre après ça? Ce que je trouve intéressant dans les témoignages qu'on trouve dans les écrits bibliques, c'est qu'il y a des personnes avec un lourd passé dont on ne cache pas cet aspect lourd. Un Saul de Tarse qui a fait tuer et emprisonner des hommes, des femmes, des enfants, et qui va devenir un témoin de Jésus. Mais ici, c'est un Pierre qui a un lourd passé. Tout commence avec une déclaration qui est pleine d'amour pour Jésus. Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. Devant tous les disciples, il dit, je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi. Et vous pensez peut-être à ces moments où, dans une amitié forte, on vous a dit, vous avez dit à quelqu'un quelque chose comme, je serai toujours là pour toi. Je serai toujours avec toi, je serai toujours ton ami, tu pourras toujours compter sur moi. Des paroles qui nous disent un amour sincère, mais Jésus lui annonce ce qui va arriver. Tu es prêt à te défaire de ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis, un coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié par 3 fois. À qui est-ce qui dit ça, Jésus? À Pierre. Un des disciples, sinon le disciple en vue. Et le délai en dit long. Quelques heures, avant même que le coq ait chanté. En quelques heures, ce sera déjà fait. Et pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Et la dernière fois, en blasphémant, en jurant qu'il ne connaît pas Jésus. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Jésus a décrit la gloire qu'il va vivre dans le fait de subir la honte, l'humiliation de la croix. Et il nous dit que cette gloire, elle doit se refléter dans notre abaissement, dans notre amour les uns pour les autres, dans notre manière de nous abaisser pour aimer l'autre. Et là, paf, Pierre, il gâche tout. Il gâche tout. On devait refléter jusqu'à ce qu'on retrouve le Seigneur Jésus. On devait vivre cet amour. Et lui, il le dit. En quelques heures, ce sera déjà terminé. Il l'aura déjà renié 3 fois. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se dit, ben, c'est tout simplement pas pour nous? Il y a une ironie dans ce que Pierre dit. Et Jean aime bien la relever, cette ironie. Cette expression. Il dit à Jésus, je suis prêt à me défaire de ma vie. En fait, c'est ce que Jésus a dit plus tôt, chapitre 10. Plusieurs fois, il utilise cette expression pour dire qu'il va se défaire de sa vie pour ses disciples. Quand il aime bien le faire, il relève l'ironie. Quelqu'un qui pense pouvoir aimer jusqu'à se défaire de sa vie, alors qu'il va justement avoir besoin de quelqu'un qui va prendre les conséquences de son manque d'amour sur lui. Pierre n'a pas pu s'appuyer sur son amour. Il n'a pas pu s'appuyer sur ses promesses. Et vous n'allez pas pouvoir vous appuyer sur vos promesses. Je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur mes promesses. Il va falloir s'appuyer sur celui qui justement s'est défait de sa vie pour nous, qui a pris les conséquences de notre manque d'amour. Mais ce qui doit nous encourager dans le cas de Pierre, et Jean va terminer son livre avec cela, quelque chose de magnifique quand même. Il y aura cet échange entre Jésus et Pierre, où Jésus va lui annoncer qu'à un moment donné, vers la fin, Pierre va souffrir en martyr. Il va connaître cette mort parce qu'il a suivi Jésus. Autrement dit, il va venir le moment où il sera prêt à mourir pour Jésus. Mais d'abord, il va falloir que Jésus se défasse de sa vie pour lui. Et c'est sur ce socle-là qu'il sera en mesure d'aller plus loin dans son amour. De même pour nous, il va nous falloir être saisis par l'amour de celui qui s'est défait de sa vie pour nous, de sorte qu'on puisse progresser jusqu'à nous défaire de notre vie pour lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons être émerveillés par cette gloire qui a été manifestée dans l'abaissement de Jésus, dans son humiliation. Et nous te prions, Père, que tu nous accordes d'en être saisis. On a tellement de peine à être décentrés de nous-mêmes pour être centrés sur toi, sur d'autres. Nous te prions que ce socle solide et sûr de l'amour de Jésus pour nous, qui s'est défait de sa vie pour nous, puisse à ce point nous libérer, nous fonder, que nous soyons mesure ici à la rue de Sèvres, dans nos relations, de nous défaire de notre vie pour d'autres, d'aimer profondément, durablement, de manière sacrificielle. Et nous comptons sur ta grâce et non pas sur nos promesses. Au nom de Jésus. Amen.